שבת מוזרים לפרשה. ונסו. כי היא לדוזיין פרשה דודי דווה מדבר. הפרמיה פרשה הייתה קונסקרי הוא דנומברמנט. Et ce dénombrement se continue par le reste de la tribu.
Pendant ce temps-là, à la même époque, pour les autres nations qui se trouvaient autour de l'Israël, est-ce que les 7 mois de Machir étaient encore malades ?
Ils étaient déjà malades.
Ils étaient déjà malades, oui. Toujours malades. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour les autres peuples, le fait que les Hébreux aient reçu de la Torah ?
Vous vous souvenez que nous avons étudié la question de Jéthro ? Et à propos de l'histoire de Jéthro, lorsque la Torah enseigne, d'ailleurs c'est dans la parasha de Jéthro, chapitre 19, que pendant tout le temps où Moïse était chez Jéthro, 40 ans à Midian, Moïse s'est initié à toutes les sagesses de l'Antiquité avant la révélation de la Torah. Et Jéthro, j'en dirai vraiment rapidement quelques phrases. Jéthro est un descendant d'une des lignées d'Abraham qui a eu la même expérience qu'Abraham. Ça mériterait qu'on étudie très en détail dans le texte de la Torah qui le raconte. Et il a recherché la vérité à travers toutes les religions, entre guillemets, de l'époque. Le Midrash que je vous cite dit toutes les idolâtries de l'époque, des religions païennes. Et petite parenthèse rapide, il faut avoir en mémoire que toutes les lignées de la descendance d'Abraham très rapidement se sont perdues dans les paganismes ambiants, sauf la lignée qui passe par Isaac. C'est-à-dire, on sait beaucoup plus qu'Abraham a eu deux fils, Ishmaël de Hagar et Isaac de Sarah, mais on sait moins ce que raconte la Torah, ce qu'enseigne la Torah, qu'à la fin de sa vie, il a eu encore d'autres enfants, et en particulier, un de ses fils s'appelait Midian, qui est une descendance d'Abraham, et cette peuplade de Midian, qui est reliée à l'histoire d'Israël du temps biblique de manière très très directe, en rivalité d'identité, d'ailleurs, elle aussi, eh bien, était devenu une peuplade païenne. Et Jéthro était le grand prêtre de Midian, précisément. Et c'est une histoire que raconte le Midrash et qui ressemble en préfiguration, qui ressemble beaucoup à ce que Judah Lévi raconte à propos du Kuzari, en préface à son livre du Kuzari. Je ne sais pas si vous avez en mémoire de quoi il s'agit, du roi des Khazars, qui cherche la vérité. Alors il rassemble toutes les grandes thèses, toutes les grandes doctrines de son temps pour essayer de comprendre laquelle est la plus vraie. En fin de compte, comme vous le savez, la peuplade des Khazars s'est convertie au judaïsme. Elle avait à choisir entre le christianisme et l'islam. Il y a des raisons historico-sociologiques d'ailleurs à toute cette histoire, puisque je parle des Khazars. C'est que la peuplade des Khazars était le royaume des Khazars, un royaume tartare. Ce sont des tribus qui se rattachent à l'identité turque, d'ailleurs. Et ils étaient coincés entre l'Empire chrétien du Nord et l'Empire musulman du Sud. Et pour des raisons politiques très importantes, ils avaient à choisir soit alliance avec les chrétiens, soit alliance avec les musulmans. Et finalement, ils ont choisi de devenir juifs pour être ni chrétiens ni musulmans. Ça a duré quelque temps, et ensuite ce royaume des Khazars a été conquis par le côté islam. La plupart des Khazars se sont convertis à l'islam, reconvertis à l'islam. Mais enfin, énormément de Khazars sont restés juifs. J'en ai connu quelques-uns, et ils sont très, très, comment dire ça en français, chauvinistes, je ne sais pas comment dire. Enfin, ils ont une coquetterie de d'élitisme. Ils ne se marient pas avec les juifs. Ils sont juifs. Je crois qu'en Israël, il y en a énormément. Ils commencent à se marier avec les juifs, à se mélanger. Mais pendant des siècles, ils ont gardé leur identité tartare d'origine. C'est des juifs 100%. Ouais. Je reviens en tout cas à notre question. Et la Midrash explique que Jethro a essayé toutes les idolâtries de son temps et les a rejetées une après l'autre. Et alors, y compris l'idolâtrie de Midian. Donc son peuple l'a mis en cherem. Son peuple l'a mis en quarantaine. Comment on apprend? C'est lorsque Moïse arrive chez Jethro, la Torah raconte que c'est une des filles de Jethro qui faisait paître le troupeau. Alors le Midrash pose la question, Jethro, grand prêtre de Midian, n'a pas des bergers pour s'occuper de ses troupeaux. Alors c'est là que le Midrash explique que son peuple l'avait mis en quarantaine parce qu'il avait rejeté la religion du peuple de Midian. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Jethro se trouve dans la situation même d'Abraham, qui a répudié toutes les idolâtries et qui était donc disponible pour la révélation de vérité. Est-ce que c'est bien clair? Et cependant, Jethro était encore au stade d'avoir répudié toutes les idolâtries. Et Moïse n'était pas arrivé à le convaincre de la vérité de la révélation à Abraham. Là, j'ouvre une parenthèse, vous me direz si c'est suffisamment clair, il faut beaucoup de temps pour mettre au point ce que je voudrais vous dire. C'est ceci. Il y a eu une religion naturelle depuis le temps du premier homme, qui est une religion de la reconnaissance d'un Dieu unique, créateur du monde, mais connu à travers les lois de la nature. C'est-à-dire, il y avait des paganismes, du polythéisme, mais il y avait une tradition monothéiste des initiés du monothéisme du Dieu unique, mais reconnu comme créateur du monde et gérant l'histoire du monde à travers les lois de la nature. C'est en particulier le monothéisme qui sera gardé jusqu'au temps de Melchisédek, que rencontrera Abraham. Pour ceux qui sont un peu habitués au texte, vous verrez que dans le dialogue entre Melchisédek et Abraham apparaît cette différence. Il y a un monothéisme naturel, un monothéisme de la nature. Dieu, créateur, mais providence du monde uniquement à travers le monde de la nature. C'est le déisme des philosophes d'ailleurs. En tout cas, c'est très proche comme expérience. Alors la révélation à Abraham est au-delà de la révélation de Elohim, le Dieu créateur, qui gère le monde d'après les lois de la nature. C'est la révélation de Hachem, qui révèle les valeurs morales en vue du monde à venir. Et il y a donc une différence de nature entre ces deux monothéismes. Et en particulier, puisque je vous ai cité le dialogue entre Melchisédek et Abraham. Alors, Melchisédek reconnaît le El Aïon, on le traduit le Dieu suprême. Faites attention que c'est très différent comme sens que l'être suprême des révolutionnaires de la Révolution française. L'être suprême des révolutionnaires, c'était la raison érigée en divinité. Bien, c'est très, très tardif comme concept. Mais pour revenir à Melchisédek, la phrase de la Torah, c'est « El Aïon ». Ça veut dire que, dans ce monothéisme, on reconnaît que le Créateur a institué toute une hiérarchie de médiation divine pour gérer le monde à travers les lois de la nature. Mais qu'il y a le « El Aïon », l'être, le Dieu suprême, supérieur, littéralement, qui a été reconnu par les grands initiés du monothéisme. Les polythéistes avaient un culte de toutes les divinités médiatrices, alors que les initiés du monothéisme ne reconnaissaient que le culte du El Aïon, et se définit à propos de Melchisédek, Kone Shamayim Vaharet, créateur du ciel et de la terre. Donc encore une fois, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu créateur, mais à travers les lois de la nature. Et vous comprenez pourquoi ça bascule perpétuellement dans le paganisme. Parce que ça bascule dans le naturisme, si j'ose dire. C'est la nature qui est érigée en divinité. Et c'est le danger, c'est le risque de ce monothéisme naturel. Dieu connu comme créant le monde, mais le gérant à travers les lois de la nature. Petite parenthèse pour vous indiquer l'importance du problème, après je reviens à la définition d'Abraham dans le dialogue avec Melchisédek. C'est que les lois de la nature renvoient, pour nous les modernes, c'est évident, ça a été un acquis de la conscience de la culture humaine. Les lois de la nature renvoient au déterminisme. Les lois de la nature sont aveugles, sont impersonnelles. Et par conséquent, ce déisme de Dieu gérant le monde à travers les lois de la nature risque perpétuellement, et à l'horizon se profile la philosophie de Spinoza, à un certain moment, d'identifier la nature avec Dieu. C'est-à-dire, il n'y a la perte de la perception du lien personnel individuel entre le créateur du monde et chaque individu de l'homme qui est une conscience libre et individuelle. Ça s'évanouit complètement. Vous comprenez comment ce genre de déisme monothéiste, naturiste, bascule dans le paganisme de manière systématique. Cependant, à travers toutes les générations, jusqu'à Abraham, il y a eu des grands initiés de ce monothéisme-là qui ont gardé la pureté de la relation au Dieu unique, du El Elyon, le Dieu supérieur, le Dieu des dieux, en langage païen, si vous voulez. Et alors, dans la rencontre avec Abraham, on voit que la formule que Abraham oppose à Melchisédek, c'est Hachem El Elyon Kodesh Amayor. Donc la révélation de Dieu, si j'ose dire, pour simplifier le problème, mais réagissant en disant c'est suffisamment clair, ce monothéisme que je viens de décrire ne reconnaît que Dieu comme Dieu de ce monde-ci. Dieu qui a créé ce monde-ci. Alors que la révélation à Abraham, c'est que celui qui a créé ce monde-ci est en réalité celui qui a voulu le monde à venir. Et c'est lorsque le nom de Hachem se dévoile dans la révélation, c'est en vue du monde à venir. Quand c'est Elohim, c'est en vue de ce monde-ci. Et la grande différence, c'est Torah Elohim, Torah Hachem. Vous êtes familier d'ailleurs à ces deux. C'est ce qui caractérise la révélation à Israël, c'est Dieu se reliant à chaque personne individuelle en vue du monde à venir. Alors le monothéisme ambiant autour d'Israël, c'est le monothéisme sémite qui reconnaît un Dieu unique, créateur du monde et gérant le monde à travers les lois de la nature. J'espère avoir vous montré très schématiquement à quel point ça n'a rien à voir, ces deux monothéismes. L'un, c'est le monothéisme de l'unicité de Dieu, on le retrouve dans l'islam, que s'il y a Dieu, il y en a un seul, unique, alors que le monothéisme d'Israël, qui commence avec Abraham, passe par Isaac et Jacob, et non pas et par aucune autre lignée d'Abraham, c'est le monothéisme du Dieu un, Hachem Echad, et pas seulement Hachem Yachid. Bien, je referme cette parenthèse, et alors, dans cette rencontre entre Moïse et Jéthro, et je me rappelle, Jéthro a cette même expérience d'Abraham qui brise les idoles, qui répudie toutes les idolâtries, qui est donc disponible à la révélation de Hachem. Est-ce que c'est clair jusque-là? Eh bien, on apprend donc pendant les 40 ans, Moïse était à Midian chez Jéthro, Moïse n'est pas arrivé à convertir, si j'ose dire, Jéthro au monothéisme de Hachem. Alors que lorsqu'il y a eu la révélation du Sinaï, Jéthro s'est rendu compte qu'il y avait autre chose que le monothéisme naturiste, et c'est là que Jéthro est venu rejoindre Moïse et se convertir à l'identité Israël. C'est là que je raccroche à votre question. C'est-à-dire que je vais parler très rapidement du problème des Noachides. J'ai beaucoup étudié la question dans l'heure de Elie Ben Amozeg, bien entendu, et je voudrais simplement isoler un point particulier pour répondre à la question de Mme Bassa. Eh bien, lorsque Jéthro découvre qu'il y a une vérité au-delà du monothéisme naturel, il ne peut pas rester en dehors. L'intention de Ben Amozeg, lorsqu'il a fondé le mouvement Noachim, c'était précisément de pouvoir répondre aux besoins spirituels de ceux qui avaient répudié l'idolâtrie, mais qui n'arrivaient pas à la révélation à Israël. C'est clair ? Or, l'exemple de Jéthro, et en particulier, vous l'apprenez au début de la paracha, Vaishma Yitro, et Rachid pose la question, qu'est-ce que Jéthro a entendu et est venu, Leïd Gaïev ? Ça, c'est la source de la Gemara. Rachid ne met pas Leïd Gaïev pour des raisons d'exégèse. Vous pouvez aller au premier verset de la paracha de Yitro, premier verset. Chapitre 18. Regardez dans Rashi, Vaishma Yitro, et Jéthro entendit tout ce que Dieu avait fait à Moïse à Israël lorsque Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Je reprends les versets, vous avez en clair tout ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce que Jéthro a entendu, Vaishma Yitro, Kohé Midian, qui était le grand-père de Midian, Chanté de Moshe, le beau-père de Moïse, et Kolachar Asa Elohim, le Moshe d'Israël. Voilà ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris de tous les événements de la sortie d'Égypte. Ce que Dieu, comme créateur du monde, à travers les lois de la nature, a fait en agissant en faveur de Moïse et d'Israël. Et la Torah dit, qui est aussi Hachem et Israël d'Israël, lorsque Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Vous voyez ce décalage ? Et alors, nous allons voir tout de suite ce que dit le texte pour nous faire comprendre que, après ces événements de la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, la guerre contre Amalek et le Mahamad Arsinaï, et donc la révélation de la Torah au Sinaï, ça, la source se trouve dans la Gemara, et bien là, Jéthro s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose au-delà. Vous allez prendre le verset. Vous allez prendre à partir du verset 8. Vaïsaper Moshe le Chotno. Et Moïse raconta, expliqua à son beau-père et trouva Hachem à sa Hachem et Favo Mizraïm. Petite parenthèse. Oui, il y a chez certains auteurs une tendance à expliquer les événements de la sortie d'Égypte par le fonctionnement des mécanismes naturels des lois de la nature. Ça, c'est l'attitude de Jéthro. Il prend acte qu'il y a un événement important, mais ça ne dépasse pas pour lui une certaine péripétie du fonctionnement des lois naturelles. Par exemple, vous avez beaucoup de juifs qui admettent qu'il y a une intervention de Dieu à la sortie d'Égypte, mais c'est à travers les lois de la nature. J'ai souvent entendu des gens très pieux, mais parce qu'ils n'arrivent pas à la foi en Hachem, Dieu d'Abraham, serait à Elohim, créateur, dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Moïse, qui était un grand savant, savait à quelle date exacte il y aurait une éclipse de lune et des marées qui lui ont permis le passage à gué de la mer Rouge. Alors ça vient la gué Oula, parce que quand il est allé au passage à gué, il a dit Oula. Oui, ce genre de raisonnement, c'est complètement infantile qu'une éclipse de lune et un passage à gué soient à l'origine de l'histoire du monothéisme de la Bible dans l'humanité entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la platitude du niveau. Mais ça, c'est la mentalité naturiste. C'est clair. Ça. Alors, voilà ce que dit le verset. Le verset nous explique que Moïse a fini par réussir à raconter à son beau-père ce que Hachem a fait au Pharaon et à l'Égypte. Il y a une intervention au-delà des lois de la nature qui fait qu'il y a eu cette expérience dans l'histoire d'Israël qui va rester le modèle de la foi pour tous les croyants de la Bible en dehors d'Israël, que ce soit les chrétiens ou à travers le Coran les musulmans, c'est qu'on peut être sauvé de l'aliénation aux lois de la nature. C'est le commencement de la foi monothéiste, biblique, hébraïque, telle qu'elle a diffusée ensuite chez les autres peuples. À l'autre d'Israël, au sujet d'Israël, et toi la telle à toutes les tribulations, Hachem et Satan Maderer, Vayatzilem Hachem, que Israël a rencontré dans le chemin de la sortie d'Égypte, et que Hachem les a délivrés. Verset 9, Vayichad Yitro. Alors, il y a deux traductions du mot Vayichad. Vayichad, c'est il a tremblé de joie, Hedva. Et Vaïhad, il a tremblé de crainte. Hidoudin, Hidoudin. C'est-à-dire, Jéthro a été saisi de tremblement un peu dans le sens de l'expression « crainte et tremblement » chez les philosophes protestants. « Al-kol ha-tova asher asa Hachem et Israël », vous voyez. Là, j'ai trop découvert. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem est un pour Israël ?« Asher itzilu mi'an Mitzrayim » en ce qu'il l'a délivré de la main de l'Égypte. Et c'est au verset 10, « Vayomer itro » alors j'ai trop dit « Baruch Hachem » béni et Hachem, Hachem et Tzilétré. C'est là qu'il reconnaît qu'au-delà de l'Okim, il y a Hachem, Jéhu et Hachem. C'est clair? Donc, et bien voilà, c'est ça la question. Le fait qu'on peut être monothéiste à travers les lois noachies, à la manière de Jéhu jusqu'à la rencontre avec Moïse. Mais à partir du moment où Jéhu a rencontré l'événement de révélation de Hachem, la source de la Gemara donne trois illustrations de cette expérience de Jéhu. C'est Kriyat Yamsouf, le passage de la mer Rouge, Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, et Matan Torah, la révélation de la Torah. À partir du moment où Jéhu a expérience d'événements dans la réalité qui lui font comprendre qu'il y a quelque chose au-delà des lois de la nature, il ne peut pas rester en dehors. Alors il vient rejoindre Moïse. C'est clair ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé au moment de Noachi, quand on lui refondait Elie Ben Amozeg. Elie Ben Amozeg, je vous en parlais parce que c'est un très grand homme du siècle dernier, d'origine du Maroc. Il était le grand rabbin d'Italie. Et un prêtre français, Aimé Palière, n'était pas encore prêtre, il était séminariste. Un jour, à Lyon, ce prêtre, qui avait des problèmes dans ses études théologiques d'ailleurs, était un peu préoccupé de ce que l'Église lui enseignait concernant le peuple juif. Un jour, il avait décidé de fréquenter la communauté juive et il rentre à la synagogue de Lyon. Il y a des Lyonnais parmi vous? Il n'y a plus de Lyonnais en Israël? Oui. Le Ketilsit, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Alors, il rentre dans cette... Je ne savais pas que vous étiez Lyon. Il rentre dans cette synagogue et au moment du Kol Nidre, il voit ce spectacle. Yom Kippour dans une synagogue juive, toutes les synagogues sont juives, donc pas pour lui. Il a eu un choc. Alors il s'est mis à rechercher et il est arrivé jusque chez le rabbin Amozeg. Il voulait se convertir au judaïsme. Et le rabbin Amozeg l'a persuadé de fonder un mouvement noachim pour les non-juifs. Parce qu'il y a énormément de non-juifs qui sont déjà dans cette expérience d'avoir réfugié l'idolâtrie, fût de leur religion soi-disant biblique. Et puis, de savoir que la vérité est dans Israël, mais qu'ils ne sont pas d'Israël, qu'ils ne peuvent pas être d'Israël, parce que leur anthropos, pouvons-nous dire ça en français, parce que leur manière d'être homme n'est pas compatible avec la manière juive d'être homme. Et alors, c'est un drame, ces membres des nations qui savent que la vérité est en Israël, qui rejettent les idolâtries de leur nation, mais qui ne peuvent pas entrer en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai racontée peut-être déjà, ce qui m'est arrivé à Mayanot. Les anciennes Mayanot s'en souviennent. J'ai reçu un jour, il y a très longtemps, un prêtre qui avait découvert cela, que la vérité c'est le judaïsme. Puis il s'est mis à étudier le judaïsme. Et puis en fin de compte, il ne s'est pas converti. Mais il a tenu à devenir israélien. Il gagne sa vie en étant Morederer, comme on dit. Et il est très très ami des juifs et d'Israël. Il a maintenant une grande place dans la hiérarchie catholique. L'église catholique lui a confié une institution d'enseignement du judaïsme pour prêtres catholiques. Et il vient me voir dans mon bureau. Et puis il me dit, ben voilà, je suis israélien. Donc je vais vous raconter plus pour que vous compreniez la portée du problème. Ben, ce prêtre, dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'il vient à Jérusalem, avait assisté à une conférence que j'ai faite chez les chrétiens. C'était en 67, je ne sais pas si vous voyez, avant le déluge. Et alors, à la fin de cette conférence, il est venu me voir en me demandant la permission de prendre cette conférence comme son sujet de thèse de doctorat de théologie. Parce qu'il avait découvert qu'il y avait quelque chose à étudier là-dedans. Bon. Et effectivement, ça a été son sujet de thèse de docteur en théologie. Il a été traduit dans plusieurs langues d'ailleurs. Et puis, finalement, je vous ai raconté son histoire. Il a étudié le judaïsme, mais il est resté prêtre. et enfin, elle a décidé d'être israélienne et de vivre à Jérusalem. Alors, je l'avais rencontré à Jérusalem, et puis il m'a dit, voilà, il m'a expliqué pourquoi il ne pouvait pas être juif. Mais qu'il savait que la vérité, c'est judaïque. Enfin, la Torah d'Israël. Mais qu'il serait chrétien. Un autre prêtre m'avait dit une fois, on n'abandonne pas sa mère, et sa mère, c'est l'Église. Mais, alors, une année avant et un autre, je lui ai demandé de venir expliquer son cas à la promotion des élèves, pour leur expliquer ce problème-là, qu'il y a des hommes de bonne foi qui ne peuvent pas devenir Israël. Alors, ce qu'il leur faut pour eux, d'après Ben Amosé, ce serait le Noahisme. Je finis cette histoire d'abord. Alors, il explique son histoire à la promotion, et puis il y a un élève qui demande, « Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'être juif ?» Alors il répond, Vincent Rive, c'est un Alsacien d'origine, il répond, c'est que j'aime la choucroute. Et alors l'élève qui est Alsacien, comme par hasard, si vous voulez, je vous dirai son nom. Actuellement, il est le Chazan de la Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lausanne, oui. Rappel de Schraga. C'est Schraga. Alors il dit, mais et quoi, il n'y a pas de choucroute cachère ? Alors le curé qui lui répond, mon fils, tu sais pas qu'est-ce que c'est une choucroute, qu'est-ce que c'est une choucroute cachère ? Ah oui, cette anecdote éclaire très bien. Il y a des hommes que Dieu a créés qui aiment la choucroute, ils ne peuvent pas être juifs. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec la vérité ? Alors pour eux, c'est le noachisme, c'est clair ? Seulement voilà, le cas de Jethro, c'est le cas particulier de ces noachismes qui, découvrant vraiment que la vérité est en Israël, ne peuvent pas rester en dehors. Vous avez compris le problème ? Et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à Aimé Palier lui-même. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup étudié ce cas-là. Donc Ben Amosé a demandé à Aimé Palier de fonder un mouvement noachide pour tous ces chrétiens déchristianisés qui ne peuvent pas être juifs quand même, parce qu'il faut être juif pour être juif. Demandez ça au Front National, on vous explique pas. Eh bien, à la fin de sa vie, Aimé Palier était très, très malheureux. Il a été pratiquement l'inspirateur en son temps de la communauté d'Henri Copernic, l'Union libérale. C'est lui qui faisait les meilleurs sermons chez le rabbin, j'ai oublié comment ça s'appelait ce rabbin.
Il se caractérisait comme chrétien.
Non, j'y arrive.
Germain Lévy.
Quel rabbin c'était ?
Germain
Lévy. Germain Lévy, c'est ça. Louis Germain Lévy. Et alors, et donc sortait les juifs à être juifs, mais lui, à la fin de sa vie, a demandé à être enterré d'après le rite catholique et le rite juif. Il est resté au milieu. C'est-à-dire, je crois que c'est un drame. Alors, je m'explique cela de la manière suivante. Il y a certains hommes pour qui savoir que la vérité, quelque part, on ne peut pas rester en dehors. Je change de sujet, mais je n'ai pas changé de sujet. C'est la fondation du paulinisme. Normalement, autour du judaïsme, il aurait dû avoir le noachisme pour les nations qui ne sont pas juives. La réaction du paulinisme a été d'inventer pseudo-identité d'Israël pour les Goïms. Je sais pas, c'est clair. J'ai beaucoup parlé avec des chrétiens de cela qui me disent nous sommes Israël, c'est les chrétiens qui parlent. Je leur dis, mais vous n'êtes pas juifs. Dis, nous sommes les vrais juifs. Mais vous voyez, c'est symbolique pour eux, c'est mystique, c'est mythique. C'est ce que Saint Paul leur a donné. Les restes égoïs n'ont pas baptisé Israël. Parce qu'ils ne peuvent pas se dire, on est en dehors de la vraie synagogue. Alors ils sont dans l'église. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc. Alors voilà, pour répondre à votre question. D'une façon générale, l'alternative, c'est ou je suis soumis à la Torah, pas soumis, non, soumis, juif de la Torah, ou noachi, ou païen. Et alors, il semble bien qu'il y ait dans la nature humaine un refus de rester sur le seuil. Le noachisme n'a jamais réussi, sociologiquement. Pourquoi ? En tout cas, jusqu'à notre temps, j'ajouterai autre chose après, à cause de ce ressort de la nature humaine, qui est un peu de l'orgueil narcissique. De vouloir être vraiment dans la maison et pas sur le seuil. C'est clair ce que je veux dire. Mais ceci dit, Il y a actuellement en Amérique de très fortes communautés de Noachim, d'ex-chrétiens. Ça se compte par dizaines de milliers. Ils sont un peu animés par des chassidim Lubavitch et qui s'en tiennent aux lois de Noé, sans être juifs vraiment, mais n'étant plus chrétiens. Pour ce moment. C'est tout un phénomène propre à l'Amérique. Je ne sais pas si ça peut être, si ça sera transitoire, si ça va se développer. Il y a eu des tentatives, vous le savez d'ailleurs, de fonder ça en France, ça ne mord pas. Un Français veut être ou vraiment Israël, ou Goy. Mais Noachim, ça ne lui rend pas. Vous avez compris un peu? À part ça, il y a des phalanstères philosophiques, d'intellectuels, ça c'est autre chose. Alors voilà en tout cas pour l'être. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pas plus fort.
Madame, pour que tu aies qu'un souffle, ça peut être un miracle, ça peut être une intervention de Dieu dans le coup. Madame Torah aussi, mais Mikhemet Amalek, pourquoi c'est un des trois? C'est-à-dire entre les.
Que. Oui, ça se rattache à l'histoire d'Israël. Ça se rattache, je vais généraliser la question, à ce mystère de la permanence d'Israël. Le moment qui se déchaîne contre Israël depuis l'origine, 4000 ans, à travers tous les Amalek de l'histoire, et voilà que c'est quand même Israël qui est victorieux. Ça ne peut pas ne pas frapper les gens de bonne foi. Vous avez compris? Ces trois expériences de dimensions différentes. Ben Adam Lakom, Ben Adam Halou. Les uns sont sensibles au fait qu'on peut être sauvé de l'aliénation des lois de la nature, chrétien psaume. Les autres, on peut être sauvé de l'antisémitisme, Amalek, et que Dieu se révèle la vraie loi aux hommes, que Dieu parle aux hommes, et ça se passe en Israël. Et c'est en ça que croient les chrétiens. La mentalité païenne est telle que savoir que Dieu a parlé à l'homme, ça veut dire qu'il s'est fait homme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Pour un juif, parce que nous sommes hébreux, alors on sait que Dieu parle à l'homme, et c'est Dieu qui parle à l'homme, et c'est l'homme qui est homme, et c'est Dieu qui est Dieu. Mais pour un goy, c'est un Dieu qui parle à l'homme. Et bien c'est un Dieu homme. Ça me rappelle, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, justement ma mémoire proche, je ne sais pas si c'est à vous. Je me rappelle, juste après la guerre, les étudiants catholiques nous invitaient à nous, les étudiants juifs, à des réunions d'études bibliques ensemble. Alors une fois, c'était le tour du grand rabbin Jaïs, qui était grand rabbin de Paris à l'époque. Et alors, je me rappelle, le grand rabbin Jaïs, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui l'ont connu, il avait un caractère entier. Et alors, emporté dans son exposé, contre l'idée du Dieu homme, il avait dit, alors toute la salle a éclaté de rire, mais ils ont bien compris ce qu'il voulait dire. Et puis, après j'ai ajouté, il dit, comment ils peuvent adorer un Dieu qui fait pipi? Un Dieu belge, vous voyez, Mackenpiss. Et bien c'est précisément ça que les chrétiens adorent. Un Dieu qui assume la nature humaine jusque-là. Enfin, jusque-là, il ne se marie pas, ça, c'est des problèmes.
Hein? Sauf la vie.
Oui, il ne se marie pas. Ça, c'est encore une comment on dit en français, c'est un. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la névrose ou de la psychose, mais en fait, c'est de l'obsessionnite. Il y a une obsession de la sexualité dans ce mythe chrétien qui est énorme. Mais, en tout cas, en général, les gens qui se prêtent pour Dieu ne se marient pas, je ne sais pas si vous savez ça. Et ils n'ont pas de mère, bien sûr. Enfin, je dis, ils n'ont pas de père. Et là, voilà, c'est ça le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Hébreux sont Hébreux et les Goïms sont Goïms. La foi des Goïms, c'est que si Dieu a parlé au Sinaï, alors il s'est fait homme. Vous avez compris le problème. Ça, j'ai mis longtemps à me rendre compte de ça. Un juif ne peut pas comprendre comment ça se passe dans la tête d'un goy. Et un goy ne peut pas comprendre comment ça se passe dans la tête d'un juif. C'est clair. Sauf dans des cas exceptionnels. Et alors, ça existe des dialogues possibles, mais il ne faut pas, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas que les Juifs méprisent purement et simplement les croyances d'Elohim. Ils sont faits autrement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et surtout, il faut savoir que les... Enfin, bon, ça suffit sur ce sujet. Ça y est, c'est clair. Alors, si vous voulez, on va reprendre notre verset, le verset 17 du chapitre 19. Est-ce que ça y est, vous arrivez à m'entendre? Bon, c'est grâce à Zétro. Alors, on va étudier une Gemara que vous avez déjà étudiée une fois, mais je vais la reprendre, sur le problème suivant. Israël arrive au pied de la montagne du Sinaï et Dieu va se révéler à Israël. C'est un événement d'un autre ordre que simplement la prophétie. Parce que c'est un événement, les théologiens ont un mot un peu barbare pour désigner la nature de l'événement, de théophanie, de révélation de Dieu, mais qui transcende la prophétie à proprement parler. C'est Dieu qui se révèle à une collectivité humaine. Or, il y a là quelque chose de beaucoup plus haut que la prophétie. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Parce que Dieu se révèle dans la parole prophétique aux hommes capables d'être prophètes. Mais là, il y a eu quelque chose de plus. Si le peuple avait besoin de Moïse comme prophète, c'est que ce peuple n'était pas à la hauteur d'être prophète comme Moïse. Et voilà que Dieu se révèle à lui quand même. Donc cette révélation de Dieu à la collectivité d'Israël, alors même qu'elle n'est pas au niveau de Moïse, c'est un événement de théophanie qui dépasse le fait de prophétie quand même. Entre autres, pendant cet événement de la révélation de Dieu au Sinaï, tous les Hébreux ont été prophètes au moment des 10 commandements. Mais quelque chose de plus, c'est le fait que Dieu se révèle au peuple tout entier, et pas seulement à Moïse. On a appris d'autre part, je ne vais pas revenir là-dessus, que la raison pour laquelle Dieu s'est révélé sur le Sinaï, c'est pour habiliter la mission de Moïse comme prophète de la Torah. Ça, vous l'apprenez dans le chapitre 19. Mais la question que je voulais poser, c'est la suivante. Où se trouve, à quel niveau est le mérite d'Israël d'avoir accepté la révélation du Sinaï? Parce que, si on comprend bien de quoi il s'agit, il ne pouvait pas faire autrement. Si Dieu se révèle, la liberté disparaît. Alors, où se trouve le mérite d'Israël d'avoir accepté quand Dieu propose la Torah? Parce que quand Dieu propose la Torah, il se révèle à Israël. Mais la révélation de Dieu à Israël supprime la liberté de l'homme. Alors, où est le mérite? Vous avez compris la question? C'est clair? Donc. Et, alors nous allons lire le verset 17. « Vayotze Moshe et Aram, Likrat Elokim » Et Dieu fit sortir le peuple. « Likrat Elokim » À la rencontre, Sliha et Moïse fit sortir le peuple. À la rencontre de Dieu, Mina Machane, à partir du camp, Vaitiatsevu Vetartitahar, et ils se tinrent, Vaitiatsev, c'est-à-dire se tenir, au pied de la montagne. Je voudrais, avant de continuer, et avant la Gemara, que vous lisiez un autre verset. C'est le verset 3. Regardez bien. Ça va nous renvoyer ce qu'on avait appris tout à l'heure avant la question que j'ai trouvée. Verset 3. Moshe ala el Elokim, et Moïse monta vers Dieu, vaikra el av Hashem min ha'har. Alors Hashem l'a appelé Dieu de la montagne. Je crois que ce verset définit très exactement tout ce qu'on a appris tout à l'heure. Moïse a été capable de monter jusqu'au niveau Elokim, alors Hashem l'a appelé Dieu de la montagne. Ça, c'est clair? Vous avez d'ailleurs dans le Ritz Faradi, dans le psaume de Shavuot, il y a le verset suivant. Ahar, Asher, Bachar Elohim et Shifto, Gam Hashem Ishmon Anetzach. La montagne que Dieu Elohim a choisie pour y résider, même Hashem y résidera. Ça veut dire, il faut arriver jusqu'au niveau Elohim pour être appelé par Hashem. Vous avez compris la différence ? Eh bien, voilà donc notre verset 17 à propos de l'expression de la fin du verset. Vaïtiatsudou est parti d'Arar et ils se tinrent au pied de la montagne. La Gemara va lire le mot Vétartit dans un sens plus profond que le sens habituel. Vous voyez la montagne, et Vétartit d'Arar, ça veut dire au pied de la montagne. La Gemara va le lire comme s'il y avait écrit Tahadar, en dessous de la montagne. Alors, ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Abdimi Bachama Bachasa. Menamed, Shechafa, Achetrocho Aleim et Arachiit. Vermar Laem, Imatem et Kablimato Rabutav, Vimlav Shamtei Fouatre. Je traduis. Un enseignement très important. À la suite du verset, ils s'assemblèrent au pied de la montagne. Pourquoi j'ai besoin de savoir qu'ils s'assemblèrent au pied de la montagne? C'est parce qu'en réalité, il s'est passé un événement surnaturel, que la montagne a été levée au-dessus d'eux. Qu'ils se sont tenus sous la montagne. Voilà ce qu'enseigne Rabbi Abdimi Bachama. Ça nous apprend que Dieu a renversé sur la montagne un couvercle de marmite, c'est plus qu'une marmite, de bassines, là où on faisait la lessive avant.
Lessive.
Oui, c'est exactement ça d'ailleurs en hébreu. Une chape que Dieu a renversé la montagne sur eux et leur a dit Imateme kablima Torah mutav, si vous acceptez la Torah, c'est bien, veimlav shamtei fuatre, sinon, là sera votre tombe. Alors, vous voyez, la Gemara dit très clairement ils ne pouvaient pas faire autrement que d'accepter. Et une explication du Maharal qui est très profonde et qui dit ceci. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter ou refuser pour Israël. C'est la condition même de notre identité. Ça veut dire, si on coïncide avec notre essence qui est la Torah, c'est bien, sinon on disparaît. Et l'histoire a montré que ne sont restés à travers les siècles et les civilisations que les membres d'Israël fidèles à la Torah. Toutes les parties d'Israël qui, de manière ou d'une autre, étaient séparés de la Torah, ont fini par disparaître. C'est clair ce que je dis là. Il faut bien le comprendre, pas au niveau d'une contemporanéité où la halakha décide. Tous les juifs sont juifs, même ceux qui ne sont pas juifs de par la Torah. Mais ça, c'est au niveau historique de chaque temps. Mais à travers l'histoire générale d'Israël, il s'avère que tous les juifs qui ont quitté la Torah ont disparu comme juifs. Je sais pas si c'est clair. 4000 ans d'expérience, ça ne peut pas se nier de manière schématique. Et on pourrait ajouter énormément de parenthèses là-dessus, mais c'est l'explication du Maharal. La première explication du Maharal. Mais surtout, ce que je veux mettre en évidence, c'est ceci. Il y a une impossibilité de dire non. C'est exprimé par la formule du Talmud. Ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous disparaissez, vous serez enterré là. Et donc, oui, le mérite.